Et au menu de notre club des têtes au carré cet après-midi, l'Académie des sciences et ses climato-sceptiques, de la glace sur la croisette, l'aventure Rosetta et les dernières nouvelles de Philae, et puis de la science à la télé avec le lancement d'une nouvelle chaîne. Et vous pouvez bien sûr nous rejoindre avec vos messages, toutes vos questions, franceinter.fr et le mot-clé, l'attaque. Le chien serait-il le meilleur ami de l'homme depuis plus longtemps qu'on ne le pensait? C'est à la une de la science aujourd'hui, Axel Villard, bonjour.
Bonjour Mathieu, c'est ce que suggère en tout cas la découverte d'une côte de loup en Sibérie, le loup de Taïmyr, qui aurait engendré la première lignée de chiens domestiques il y a 27 000 ans. On en parle dans un instant avec nos invités et vos questions sur Twitter.
Violaine Ballet réalise cette nouvelle tête au carré qui a été préparée aujourd'hui par Anne-Cécile Perrin.
La tête au carré, le club, avec Mathieu Vidard sur France Inter.
Et donc un club qui va nous emmener aux quatre coins de l'Hexagone aujourd'hui avec mes invités à Paris, à Toulouse, à Cannes. On commencera avec vous Stéphane Foucard, bonjour. Vous signez aujourd'hui dans Le Monde un article sur le regain climato-sceptique à l'Académie des sciences. L'institution apparemment reste très ouverte aux thèses minoritaires des climato-sceptiques.
Oui, très ouverte en effet, et même si ouverte que l'Académie des sciences françaises remet en cause en quelque sorte l'intégrité de ses propres avis officiels sur la question de la transition énergétique et du climat. Enfin.
On ira aussi pendant ce club sur la croisette justement à Cannes, nous attend le réalisateur Luc Jacquet. Bonjour Luc Jacquet.
Bonjour Mathieu.
Vous présentez en clôture du festival dimanche votre nouveau film documentaire La glace et le ciel, avec pour héros le glaciologue Claude Lorius. Le festival de Cannes déroule son tapis rouge à la question du réchauffement climatique alors ?
Bah oui, c'est un magnifique honneur que nous fait Thierry Frémaux, Pierre Lescure aussi, et le comité scientifique. Mais je m'en mêle complètement les pinceaux, Mathieu.
C'est effrayant. Mais c'est pas grave, c'est le démarrage. C'est ça. Il fait beau chez vous.
Un immense honneur, en tout cas, d'avoir ce sujet et ce film sur la croisette, ouais, avec l'environnement qui se retrouve reçu par le cinéma dans son plus bel écrin. C'est somptueux.
Ça. Vous avez fait la fiesta hier soir, Luc Jacquet?
Ben même pas.
On se retrouvera dans quelques minutes pour en discuter en tout cas. À Toulouse nous attend aussi le planétologue Philippe Godon, bonjour.
Bonjour.
C'est vous qui avez piloté l'atterrissage du robot Philae sur la comète Chury en novembre dernier, et Arte consacre un documentaire justement à l'aventure Rosetta qui sera diffusé le 30 mai prochain. Toujours pas de nouvelles du robot Philae, Philippe Godon?
Et non, il y a deux jours encore, on était à l'écoute de Philae, et non, malheureusement, on pense qu'il a encore trop froid et que l'énergie n'est pas suffisante à la surface de Churyumov pour qu'il puisse se réveiller.
Bon, ben, tous les espoirs ne sont pas totalement perdus, donc on va en reparler avec vous. Et puis une nouvelle chaîne de télé est née, cette chaîne est entièrement dédiée à la science, s'il s'agit de Science et Vie TV. Jérôme Bonaldi, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes l'une des figures de proue des programmes justement de Science et Vie TV avec le Mac de la Science, c'est le samedi hein, à 18h.
Oui.
C'est la deuxième chaîne finalement que vous lancez après Canal Plus en 84.
Oui, puis il y a eu Vivolta aussi.
Ah, il y a eu ça aussi.
Avec Gidas.
Ah ben voilà. Donc vous allez leur porter chance.
J'espère.
Oui. Ça se passe bien depuis deux mois?
Pour le moment, tout va bien, chef.
Oui. Donc vous enregistrez votre émission?
On enregistre une hebdo et puis une mensuelle. Mm-hmm. Enfin, l'hebdo donc toutes les semaines et la mensuelle donc tous les mois.
Et ce sera.
Et ça a commencé depuis un mois et ça se passe plutôt bien. Mmh. La collaboration entre Téloche Télévision et Presse Écrite, la presse qui tâche les doigts, ça fonctionne.
Bon, en tout cas, ça fait du bien d'avoir plus de science à la télé. Oui. Ce sera entre autres l'objet de notre discussion. Voilà donc pour ce premier tour de table, pour ce club des têtes au carré. Vous nous rejoignez bien sûr avec vos messages. Depuis quand l'homme et le chien sont-ils les meilleurs amis du monde? Une nouvelle publication précise ce lien et c'est aujourd'hui à la une de la science.
Salut Tom.
Alan.
Salut Sam.
Salut Lassie, ça a l'air d'aller ma fille.
Elle est magnifique Sam. Je suis sûr Tom que t'as jamais vu une chienne aussi belle.
C'est bien ce que je disais à ma bourgeoise l'autre soir Sam. Je disais que de mémoire d'homme, dans tout le Yorkshire, on n'a jamais vu une chienne comme Lassie. En tout cas, depuis que je suis venu au monde, je n'en ai jamais vu. Et c'est la vérité.
Voilà, c'est en 1943, il est bon de le préciser, la fidèle Lassie de Wilcox. On s'intéresse donc aujourd'hui au premier chien domestiqué à la une de la science. L'analyse génétique d'une côte de loup découverte en Sibérie vient reculer l'âge de la domestication du chien de quelques 10 000 ans. Pour en parler, nous sommes en ligne depuis Chypre avec vous, Jean-Denis Vigne. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes archéozoologue au Muséum National d'Histoire Naturelle. Et puis nous sommes en ligne également avec Lyon. Morgane Olivier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes paléogénomicienne à l'ENS de Lyon. Alors petite précision tout de suite sur votre intitulé. Qu'est-ce que c'est exactement comme discipline?
Alors en fait, on fait de la paléogénomique, donc paléo tout ce qui est ancien, génomique et ben tout ce qui a trait au génome. Donc on étudie principalement l'ADN dégradé, donc issu de restes principalement, ben, pour mon cas, anciens. Donc comme les restes de chiens qui ont été analysés lors de cette étude.
Exactement. Jean-Denis Vigne, une simple côte de loup justement. La paléogénétique peut réécrire toute l'histoire des relations entre le chien et l'homme simplement avec cette pièce à conviction?
Oh, bien sûr que non. La question comporte la réponse pratiquement. Non, mais en même temps, c'est une donnée supplémentaire. Nous avons très peu d'éléments sur les origines du chien, et chaque donnée supplémentaire, et celle-ci est réellement intéressante, permet d'alimenter le débat et de progresser lentement pour déchiffrer une histoire qui est probablement très compliquée.
Alors, que nous apprend cette côte de loup exactement ?
Alors, elle nous montre que le loup de Taïmyr, puisque c'est de ce loup qu'il s'agit, a divergé d'autres loups à une date qui est pratiquement similaire à celle de la divergence du chien par rapport au loup. Mmh. Et comme cette côte... Pardon.
Oui, je vous en prie.
Comme cette côte a été datée par le carbone 14 de manière tout à fait fiable, aux environs de 27 000, les auteurs proposent de situer la divergence entre le chien et le loup à cette date-là.
Et donc, Morgane Olivier, c'est l'ADN de cette côte qui nous permet de montrer ces divergences. Comment fait-on ?
Alors tout à fait, on extrait l'ADN à partir de l'ossement, on séquence et on obtient donc une séquence d'ADN. Donc là, ils ont séquencé le génome mitochondrial, donc c'est plusieurs dizaines de milliers de paires de bases qu'ils ont après comparé en fait avec des séquences mitochondriales, donc du même ADN chez des loups anciens, des loups actuels et des chiens actuels. Voilà, et on regarde les relations de parenté entre toutes ces séquences.
Alors Jean-Denis Vigne, justement, ces chercheurs suédois vont plus loin en faisant reculer de 10 000 ans l'âge de la domestication. Est-ce que vous contestez un petit peu cette proposition ou vous êtes plutôt d'accord ?
Alors vous savez, il faut reculer la date pour certains chercheurs et pour d'autres, ils la rajeunissent un peu puisque nous sommes depuis plusieurs années, parmi les chercheurs qui travaillent sur cette question-là, dans une discussion qui oppose tout un groupe de scientifiques qui pensent que la domestication du chien a eu lieu dès 35 000, voire 40 000 avant Jésus-Christ, et d'autres qui considèrent que les preuves les plus fiables de la domestication datent aux environs de 15 000, 16 000 avant Jésus-Christ. Donc vous voyez, là, on a une date supplémentaire qui est entre les deux, qui nous donne aussi une idée de la région dans laquelle a pu se produire cette divergence. Mais comme je le disais, la domestication du chien, c'est un événement sans doute très compliqué qui s'est déroulé pratiquement dans tout l'ancien monde et sur une période, comme on le voit, qui couvre entre 35 000 et 15 000. Donc vous voyez, c'est plus compliqué que ça, quoi.
Donc ce qui montre bien que personne n'est d'accord sur la question, en tout cas, hein, effectivement.
Oui, ce qui montre surtout que nous sommes tous les gens qui s'intéressent à ce sujet apportent leurs pierres, que c'est un débat difficile, que toutes ces pierres sont importantes, celle-ci est importante, mais que on va continuer à progresser, à accumuler des données, et peut-être qu'on arrivera à mieux savoir où et quand le chien a été domestiqué.
Qu'est-ce qui est vraiment intéressant donc chez ce loup de Taïmyr, Morgane Olivier, en enlevant les controverses ?
Alors, ce qui est intéressant, selon moi, c'est pas forcément de placer l'accent sur le fait que c'est un ancien ou de reculer l'âge de la domestication, c'est le fait qu'on retrouve ici une nouvelle lignée de loups qu'on ne connaissait pas, un loup du Pléistocène dont on ne retrouve pas la trace actuellement, et ça montre qu'il y a une variabilité ancienne qu'on ne connaissait pas et qui reste à explorer pour comprendre mieux la diversité actuelle des chiens et des loups en fait.
Jean-Denis Vigne, on va parler de réchauffement climatique beaucoup dans ce club des têtes au carré. Il faut dire que la façon justement dont a été découverte cette côte est liée précisément au réchauffement de la planète, hein.
Oui, enfin, bien sûr, le réchauffement actuel provoque la fonte des glaces un peu partout dans le monde, en altitude et en haute latitude. Et ça met au jour un certain nombre de cadavres d'animaux et d'humains, pourquoi pas, qui ont été emprisonnés dans les glaces il y a fort longtemps, durant les temps glaciaires. Évidemment, c'est une documentation d'un intérêt considérable, c'est une documentation unique.
Qu'est-ce que vous cherchez à Chypre en ce moment, Jean-Denis Vigne ?
Ah, moi, en ce moment, je suis en train de fouiller un site extraordinaire qui s'appelle Pimonast, dans lequel on a les plus anciens villages insulaires de Méditerranée. Et ce sont des villages qui datent du tout début de l'agriculture, juste avant la domestication des ongulés, mmh. et dans lesquels on a quand même des indices de relations très étroites, avec, en particulier là, avec un petit sanglier chypriote local.
Très bien, mais écoutez, histoire d'hommes, d'animaux et d'archéologie, grâce à vous, et donc cette publication, nouvelle proposition hein, autour de la domestication du chien, donc Axel, moins 26.
Une nouvelle proposition.
Merci Jean-Denis Vigne et Morgane Olivier pour vos précisions. Voilà Axel, passez un bon week-end.
Merci.
On peut écouter cette une, évidemment, comme toujours.
Les podcasts, tous les jours, 10 minutes en plus du dossier.
Allez, en bref, dans le reste de l'actualité scientifique, le LHC fraîchement rénové qui bat tous les records. Le grand accélérateur de particules de Genève vient de pulvériser son propre record d'énergie de collision en faisant s'écraser l'un contre l'autre deux trains de protons à une énergie de 13 trillions électron-volts. C'est 5 trillions de plus que son précédent record de 2013. Des résultats de très bon augure donc pour les recherches à très haute énergie prévues pour juin et dont les résultats sont très attendus. La chasse aux lions et aux léopards est à nouveau ouverte dans les parcs naturels de Zambie. À peine 2 ans après son interdiction, cette réouverture soumise à des quotas suscite de vives réactions. Selon le gouvernement, la population de plus de 4 millions d'Afrique en augmentation est largement suffisante pour une chasse encadrée. Et de leur côté, bien sûr, les associations de protection, qui n'en dénombrent que 1500, considèrent que cette décision est catastrophique et rappellent que le lion d'Afrique est toujours classé vulnérable par l'Union internationale pour la conservation de la nature. Et puis enfin, pour terminer, la consommation de café aurait-elle un effet bénéfique sur l'activité sexuelle des hommes? Ce lien statistique amusant vient d'être mis en évidence par des chercheurs texans. Ils ont remarqué que les hommes consommant 2 à 3 tasses de café par jour présentaient 42% de chances en moins de souffrir d'impuissance. Alors, stat à la con ou non, les chercheurs expliquent que la caféine amorcerait une série d'effets menant à une relaxation des corps caverneux du pénis, pouvant sensiblement améliorer la dysfonction érectile. Le café, mieux que le Viagra, évidemment, Jérôme Bollandi, ça vous intéresse
hein. C'est toujours le problème de la causalité. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'il y a vraiment un lien? Moi, je me souviens de l'histoire de... Chaque fois que je prends un café, docteur, j'ai mal à l'œil.
Oui.
Enlever la cuillère. Voilà. Oui. C'est... Y a
ça
pas
s'appelle
de lien.
Une stat à la con, comme l'appelle notre ami Dominique Dupin.
C'est,
voilà.
c'est les stats imbéciles. les enfants nourris au sein réussissent mieux à l'école que les enfants nourris au biberon. Peut-être parce que les mamans sont plus riches, s'occupent plus d'eux, elles ont plus le temps. Enfin, voilà. Le lien de cause à effet. Pas
voilà, c'est toujours pas. Amusant d'en parler. En tout cas, voici une belle stat à la cour pour le week-end. Allez, le club des têtes au carré dans un instant.
We'll be right back. manger pour le qui a ça.
Ça manger pour le qui a ça.
Ça manger pour le qui a ça.
Ça manger pour le qui a ça.
Manger pour le qui a ça.
Ça manger pour le qui a ça.
Ouais, correct. C'est bon.
Bravo les gars, Skip and Die.
La tête au carré. Le club.
Et dans le club des Têtes au Carré, nous irons donc au Festival de Cannes avec Luc Jacquet à Toulouse pour parler de Rosetta, à l'Académie des Sciences pour faire connaissance un peu plus avec les climato-sceptiques et puis dans les coulisses d'une nouvelle chaîne de télé Sciences et Vie TV et vos messages sur franceinter.fr. Jérôme Bonaldi, est-ce que vous inviterez des climato-sceptiques le samedi dans votre nouvelle émission scientifique Mac de la Science?
Oui, je pense que c'est important, que même façon si j'étais en politique, j'inviterais des gens du Front National, même si t'es pas d'accord avec les idées, parce que il y a pas mal de gens qui sont un peu sceptiques sur les médias en tant que tels et qui donc disent, ah oui, on leur interdit de parler, et donc c'est donc qu'ils ont des choses importantes à dire, il y a toujours la théorie du complot, et donc je pense qu'il faut donner la parole, pour mieux d'ailleurs, derrière, parce que la science est aussi le doute, c'est aussi de réfléchir et de confronter les idées, je pense que c'est important de...
Mais par exemple... Mais enfin, ils sont très minoritaires et quand même très contestés par les études scientifiques, et vous pensez qu'il faut quand même leur laisser la parole, oui, au même titre que des climatologues?
Non, pas les mettre au même, pas les mettre au même. Non, mais si les créationnistes, il faut aussi leur donner la parole pour que les gens se rendent compte d'eux-mêmes. Je pense que c'est important, qu'en fait, ça repose sur pas grand-chose. Oui, il faut donner la parole aux créationnistes. Oui, j'en suis intimement persuadé. Peut-être pas aux racistes, mais là, on est dans des domaines un peu sur la raison. Et donc, la raison l'emportera. C'est parce que je suis optimiste que je pense qu'il faut leur donner la parole.
Bon, je pense que Stéphane Foucard n'est pas du tout d'accord avec vous.
Évidemment, mais on fait.
On en parle avec Stéphane. Stéphane, puisque vous signez dans Le Monde daté d'aujourd'hui un article sur le regain climato-sceptique au sein même de l'Académie des Sciences. Alors c'est vrai qu'à l'heure où la France se prépare pour la conférence sur le climat en décembre, il semblerait que le Quai Conti soit en train de se distinguer de toutes les autres académies dans le monde en laissant une place justement à l'avis minoritaire des climato-sceptiques. C'est l'angle de votre article. Idée qu'on retrouve également dans le magazine La Recherche, qui a fait une très belle enquête sur le sujet, Stéphane Foucard.
Oui, absolument. C'est une des particularités de l'Académie des sciences française, c'est d'être, comme vous l'avez dit, la seule Académie des sciences au monde qui discute encore, qui débat encore des causes humaines du réchauffement en cours. Mais c'est aussi la seule société savante qui tient une telle position, ou une telle absence de position, plus exactement, puisque au monde, il n'y a aucune autre société savante dans laquelle on débat encore sérieusement du changement climatique en cours, et plus exactement de ses causes. Donc c'est vraiment une particularité française qui est assez surprenante, dans la mesure où la France est l'hôte de la COP21, la 21e conférence sur le climat qui doit se tenir à Paris en décembre et qui est décisive. Voilà, ça fait partie des choses qui sont typiquement françaises.
Alors Stéphane, justement, vous citez une nouvelle charte de l'Académie des sciences qui a été adoptée en 2012 et qui prévoit qu'en cas de désaccord au sein d'un groupe de travail, un avis minoritaire pourrait être annexé à un avis majoritaire.
Oui, alors si on s'en tient à ce que disait Jérôme Bonaldi tout à l'heure, tout ça est très sain, hein, puisque effectivement la science c'est le doute, c'est le scepticisme, en tout cas le scepticisme éclairé, c'est le doute raisonnable, c'est-à-dire que on n'est jamais sûr à 100% d'à peu près rien, et il faut toujours remettre les choses en question, remener des expériences, etc. pour s'approcher au plus près de la réalité physique du monde. Donc cette nouvelle charte de l'expertise prise en mars 2012 prévoit effectivement qu'un avis minoritaire peut être annexé à un avis majoritaire. Ce qui s'est passé en 2014, c'est qu'un groupe de travail d'une dizaine d'académiciens a été réuni par l'Académie, bien sûr, pour émettre un avis sur le changement climatique en prévision de cette fameuse COP21, pour dire un petit peu l'opinion de l'Académie des sciences sur le sujet. Et parmi ces 10 académiciens, bien évidemment, tous sont absolument d'accord, comme l'écrasante majorité de la communauté scientifique, pour dire que le changement climatique en cours, un, d'une part, est une réalité, deux, est essentiellement le fait des activités humaines. Mais dans ce groupe, il y a un géophysicien français qui s'appelle Vincent Courtillot, qui est proche de Claude Allègre, qui est bien connu des médias, des auditeurs, et qui soutient que le changement climatique en cours, s'il existe, eh bien, n'est pas nécessairement le fait des activités humaines.
Donc ça veut dire que son avis pourrait être annexé, au reste des discussions sur le climat.
Voilà, il pourrait y avoir en fait deux avis de l'Académie des sciences. Un avis pour dire pour endosser simplement le consensus scientifique international sur le sujet, et puis un autre avis, toujours estampillé par l'Académie, qui dirait le contraire. Alors, Édouard Brézin, que je cite dans l'article, qui est physicien, qui est ancien président de l'Académie des sciences, dit que c'est un peu comme si bien, on faisait un avis pour dire que la Terre est ronde, et puis un autre à côté pour dire qu'elle est plate.
Donc il y a un vrai problème déontologique au sein de l'Académie à ce sujet, Jérôme Bonaldi.
C'est peut-être seulement l'état de l'opinion. L'Académie des sciences constate qu'il y a des gens qui n'y croient pas. Et donc, l'état des lieux est physique, chimique, enfin, scientifique, et l'état de l'opinion, c'est de dire, c'est un acte de tolérance. C'est un fait qu'il y a des climato-sceptiques. C'est un fait.
Que disent les académiciens que j'ai interrogés, hein, la plupart sont quand même extrêmement énervés par cette situation. Ce qu'ils disent, c'est simplement que la science, la démarche scientifique, ça fonctionne effectivement par la remise en question, la remise en doute de ce qu'on croit ou de ce qu'on croit savoir, mais que la démarche scientifique, elle tient compte des objections qui sont faites, de l'invalidation de certaines données, du fait que certaines études sont réfutées, sont oubliées par la communauté scientifique, et que en l'occurrence, ce processus n'est pas respecté, c'est-à-dire que des études qui ont été réfuté de manière absolument éclatante et pour le coup irréfutable, publiées dans la littérature scientifique, sont systématiquement ressorties comme si elles n'avaient été soumises à aucune critique. Donc c'est ça qui est vraiment au cœur de cette question. C'est la question de la déontologie scientifique.
Ouais. L'Académie a les moyens de foutre dehors un type qui ne mérite pas le label scientifique.
Dehors, Courtillon. Les statuts de l'Académie sont extrêmement complexes et d'ailleurs les responsables, le président et la secrétaire perpétuelle de l'Académie ne savent pas d'ailleurs eux-mêmes exactement dans quelle mesure est-ce que cet avis minoritaire pourrait être pris par l'Académie. Est-ce que l'avis minoritaire est annexé à l'avis majoritaire? Dans ce cas-là, l'Assemblée générale des académiciens vote sur l'avis principal et son annexe ou éventuellement voter sur l'avis majoritaire puis sur l'avis minoritaire, ce qui changerait bien évidemment tout. Tout ça apparemment est encore assez flou, assez nébuleux.
Oui. Alors justement, Stéphane Foucard, vous citez le magazine La Recherche qui vient de publier une enquête sur le sujet, les climato-sceptiques à l'assaut de l'Académie des sciences, dans laquelle est décrit un climat de quasi-peur répandu par les climato-sceptiques. C'est quand même incroyable parce qu'ils sont minoritaires quand même à l'Académie.
Minoritaire, ce que raconte l'enquête de la recherche, qui est très fouillée, qui est excellente à mon sens, c'est que par toute une série de formes de cooptation, c'est ce petit groupe de scientifiques minoritaires occupe des places, disons, stratégiques dans les instances dirigeantes, au comité restreint, au bureau de l'Académie des sciences. C'est un peu comme ça, à mon sens, qu'ils réussissent à faire entendre leur voix. J'ai beaucoup de mal à penser, à croire que les voix climato-sceptiques soient majoritaires.
Oui. Est-ce qu'ils travaillent un petit peu comme dans un excellent papier de Serge Foucard dans Le Monde, racontant le lobbying des sucriers, des fabricants de sucre sur les dentistes?
C'est Stéphane Foucard qu'on en lit. Hein.
Oui, je sais bien. Je flagornais. Non, mais est-ce que c'est la même façon de faire de l'entrisme par des fondations bidons?
De deux choses qui sont vraiment différentes. À mon avis, je peux me tromper, mais d'ailleurs ce sont des questions qui sont assez complexes et dont on n'aura jamais vraiment le fin mot à mon avis, mais je crois que ces académiciens climato-sceptiques sont quelque part sincères. C'est-à-dire qu'ils s'égarent, mais je crois qu'ils ont une forme de sincérité. Je pense pas du tout que ce sont des gens qui sont stipendiés par les pétroliers.
On peut lire
à droite ou à gauche. Je ne pense pas du tout que ce soit le cas. Pour ce qui est des sucriers, c'était effectivement un article récemment publié dans Le Monde, mais sous la signature de Nathaniel Herzberg.
Pardon.
Excellent confrère et collègue. Il s'agissait de pirater en quelque sorte l'expertise publique sur les effets du sucre sur les caries, c'est-à-dire d'embaucher, de récupérer en fait des panels d'experts qui travaillent pour les agences publiques et de les faire travailler sur ce sujet dans un cadre d'entreprise, avec des experts d'entreprise qui orientent ce travail dans un sens plutôt que dans un autre. Bon, donc là, on est vraiment dans quelque chose de complètement différent. On est dans une approche très idéologique, à mon sens, de la science, c'est-à-dire que c'est toute une génération de chercheurs qui ont fait leur carrière dans l'idée que le progrès de l'homme, c'est le progrès technologique, et puis que qu'on leur annonce comme ça à la fin de leur carrière académique que le progrès technologique a aussi des effets potentiellement désastreux sur les sociétés humaines et la biosphère, c'est quelque chose qui peut être difficilement acceptable.
En tout cas, Stéphane Foucard, c'est vrai qu'à quelques mois de la COP21 en France, où le monde va essayer de négocier des réductions d'émissions de gaz à effet de serre, c'est vrai que ça la fout un peu mal quand même que l'Académie des sciences ouvre ses portes aux propositions climato-sceptiques. Donc, cet article du Monde, hein, qui est sorti dans le Monde daté d'aujourd'hui, et puis on renvoie vraiment à la recherche numéro 500, cette enquête d'Ifsiama, excellente sur les climato-sceptiques, justement. Très vite, Stéphane.
Une toute petite chose par rapport à ce que disait Jérôme Bonaly tout à l'heure. Moi, je pense effectivement, comme lui, qu'il faut absolument échanger avec les gens avec qui on n'est pas d'accord. Mais je crois aussi que la science, c'est une affaire de faits, et qu'une fois que les faits sont suffisamment solidement établis pour qu'on puisse passer à autre chose, eh bien, il faut avoir le courage de passer à autre chose précisément.
Merci beaucoup, en tout cas, Stéphane. Mais vous pouvez rester avec nous parce qu'on parle avec Luc Jacquet et la transition est toute faite pour évidemment évoquer concrètement le réchauffement climatique, puisque Luc Jacquet, vous êtes à Cannes en duplex avec nous. Est-ce que les organisateurs du festival ne seraient pas finalement plus ouverts que certains académiciens aux questions du réchauffement climatique, si on en juge justement par la sélection pour la clôture du Festival de Cannes de votre documentaire « La glace et le ciel ».
En tout cas, c'est un vrai geste politique hein, que nous fait le festival, puisque c'est pour moi, j'analyse ça comme le cinéma, le plus beau festival du monde, qui prend acte qu'il se passe quelque chose. Effectivement, en faisant monter les marches à Claude Lorius et un panel de scientifiques qui vont l'accompagner pour dire, nous aussi, cinéastes, artistes, nous sommes concernés par ces questions-là et on a envie de prendre parti.
Et c'est justement dans le cadre aussi de cette année de la COP21. Donc ça, c'est formidable que ce documentaire, c'est la première fois qu'un documentaire va faire la clôture du Festival de Cannes. Ça s'appelle donc « La glace et le ciel », bande-annonce.
Je m'appelle Claude Lorius et j'aurai 23 ans pour toujours.
Les expéditions polaires françaises recherchent un jeune étudiant pour une mission scientifique de plus d'un an en Antarctique. Une excellente forme physique est exigée et de préférence un certain goût pour l'aventure.
On ne voit pas arriver l'Antarctique. On bute contre lui. J'en suis rentré avec un regard unique sur le monde. Et surtout cette empathie folle pour la planète sur laquelle je vis. Je me retrouve là-bas, loin du monde, où l'existence est pleine de défis et de fraternité. Pour la première fois, je me sens maître d'un royaume. En 1984, nous mettons sur pied une mission extraordinaire. Nous recueillons des fragments de temps, mètre après mètre. L'analyse des cristaux nous prouve que nous avons pénétré dans les glaces de l'ère glaciaire. Ces travaux me vaudront les honneurs internationaux et mes blessures les plus profondes.
Les prévisions catastrophiques sur le réchauffement de l'atmosphère ne sont peut-être pas ce qu'on nous a dit que c'était.
Mais vous êtes justement de ces hommes qui raisonnent sur le court terme.
À 82 ans, je suis aujourd'hui un vieil homme qui constate tristement que l'histoire lui a donné raison.
La glace et le ciel hors compétition, ce sera donc pour la clôture du festival dimanche, Luc Jacquet, avec votre héros Claude Lorius, ce glaciologue qui est un personnage clé quand même dans la compréhension de la question climatique.
C'est extrêmement troublant par rapport au débat qu'on vient d'avoir, effectivement, l'excellent papier de Stéphane Foucard. Claude a été lui-même pris dans la tourmente du climato-scepticisme, alors qu'effectivement la singularité de cette recherche et de ses preuves a été fournie par des équipes françaises dès 85, puisque c'est vraiment Lorius et ses équipes, accompagnées de Jean Jouzel et bien d'autres, qui ont prouvé dans 3 articles majeurs dans Nature qui avait absolument une relation fondamentale prouvée et validée par tous les scientifiques du monde entre la relation entre l'effet de serre et le climat, et en particulier sur les gaz à effet de serre émis par l'homme. Donc là, on est effectivement toujours au cœur du débat, 30 ans plus tard, et je pense que c'est vraiment la dimension pathétique sur laquelle j'ai voulu m'attarder un peu à travers l'histoire incroyable de ce personnage qui est Claude Lorius, qui a consacré sa vie à cette science, qui est parti en Antarctique plus d'une dizaine d'années, qui a travaillé dans des conditions effroyables, qui a su surmonter finalement, transgresser, je dirais même toutes les querelles de la guerre froide, pour travailler avec des Américains, des Russes, pour produire cette connaissance, et voir que 30 ans, 40 ans plus tard, on est toujours sur les mêmes débats en disant « mais finalement, est-ce que c'est vrai ?» Tout ce temps perdu, en me mettant à sa place, en parlant beaucoup avec lui, je pense qu'il y a une dimension effectivement presque désespérante, puisque à quoi sert-il finalement de produire une connaissance si elle n'est pas entendue? Je crois que c'est là tout le débat.
Mais ce qui est incroyable, c'est que Claude Lorius reste un indécrottable optimiste quand même.
Je crois que Claude a appris ce que nous apprend tous l'Antarctique, c'est-à-dire que quand vous êtes pris dans la tourmente de l'histoire, quand vous êtes pris dans le blizzard, la question n'est plus à se poser si on est optimiste ou si on est pessimiste, il faut s'en sortir. Et je crois qu'aujourd'hui, on en arrive à un point où il faut s'en sortir, et on discutera de nos états d'âme un peu plus tard. Je crois qu'il faut embarquer tout le monde, il faut embarquer le grand public. Les convaincus sont convaincus aujourd'hui, et je pense qu'il y a plein de gens qui se posent la question, justement, nourris par ces doutes aussi. Et je crois qu'il faut vraiment aujourd'hui s'adresser en particulier aux enfants, mais aussi au plus grand nombre, pour dire, regardez, il y a des faits qui sont là, Ne nous laissons pas écraser par ces faits, ne nous laissons pas écraser par le désespoir. La créativité de l'homme, le génie de l'homme, et ça c'est Claude qui le dit, peut nous sortir de là et nous amener à une société qui va être certes différente, qui va probablement être, j'ose pas dire meilleure, mais en tout cas plus intéressante, puisqu'on sera sorti de cet esclavage vis-à-vis des ressources carbonées. Et je crois qu'il y a un changement d'état d'esprit là à jouer maintenant, qui est extrêmement important pour aller plus loin et pour aller finalement vers notre avenir.
Et vous l'avez ramené, Claude Dorius, en Antarctique pour ses 80 ans, c'est ça, Luc Jacquet?
Ah, c'était absolument fabuleux. Je me souviendrai toujours. On était en train de remonter vers Ushuaïa et on venait de passer 10 jours en péninsule antarctique.
Ouais.
Et Claude me dit un peu bravache comme ça. Il me dit, tu sais, l'Antarctique, je reviens quand je veux.
Il y avait
un côté baroud comme ça, ouais, extraordinaire, parce que Claude aujourd'hui a 83 ans. Il est certes affaibli, mais il a toujours ce regard qui pétille. Et je crois qu'il y a cette passion en lui qui est à la fois la passion de la recherche, mais aussi la passion de l'aventure. Ouais. Et c'est un grand, grand bonhomme. Là, il vient d'arriver à Cannes. Il est extrêmement ému parce que pour lui, c'est un sens considérable.
Extraordinaire. Vous avez donc monté les marches de Cannes. Alors, Bonaldi, évidemment, vous connaissez Cannes par cœur. Hein,
oui, mais j'ai jamais monté les marches en tant que star.
Non, bien sûr. Mais alors, comment on est accueilli avec un tel film dans le cadre d'un festival comme Cannes, Luc Jacquet? Est-ce que vraiment vous sentez un intérêt sincère pour la cause climatique?
Oui, bah écoutez, moi je connais bien Thierry Frémaux puisque j'habite dans la région lyonnaise et on a eu l'occasion de se rencontrer. D'ailleurs, la première fois que je lui ai présenté Lorius, il s'était engueulé comme du poisson pourri avec eux. Je lui avais dit, bon bah écoute, ça c'est fait, Cannes c'est fini. Mais non, voilà, je pense que c'est aussi la force d'un festival comme ça, c'est d'avoir une véritable indépendance et une véritable possibilité de se positionner sur ces grandes questions sociétales et politiques. Et je crois que là, vraiment, Thierry a assumé quelque chose de très très fort et j'en suis extrêmement reconnaissant.
Quoi. Et c'est votre engagement aujourd'hui, après évidemment la marche de l'Empereur, après les relations homme-animal avec le renard et puis la forêt, bien maintenant c'est la glace. Et ce sera en salle le 21 octobre.
C'est ça le plus important. Où, quand?
Ben oui, 21 octobre, il faut attendre. Donc,
en salle.
Où, quand? Le 21 octobre en salle, mais vous pouvez aussi retrouver tout l'environnement scientifique. On a produit énormément de choses à destination des enfants, des enseignants,
oui,
sur le site internet de White Touch. Allez voir sur education.laglaceelciel.com.
Oui.
Vous allez voir, on a aussi autour du film créé plein d'éléments pour comprendre, pour chercher. Les meilleurs chercheurs du monde ont fait des interviews pour nous. Il y a énormément de fiches pédagogiques. Donc, si vous avez envie de vous documenter, je pense en particulier aux enfants et aux profs, il y a plein de choses pour vous. C'est en libre accès, c'est gratuit, c'est partageable.
L'adresse,
on y a mis beaucoup de cœur, donc j'espère, education.laglaceelciel.com.
Voilà, et c'est en lien, évidemment, sur le site de la télé. J'aime bien mon co-animateur aujourd'hui, il est super.
Il est très fort,
ah oui, je peux partir en week-end, je suis peinard.
Mais non, mais il tease en disant c'est génial, je veux le voir, 21 octobre en salle.
21 octobre, absolument, on met tout sur la tête au carré. Et puis nous, on va regarder les images dimanche soir de votre montée des marches avec Claude Lorius, parce que ça va être un moment extraordinaire, Luc Jacquet. Merci beaucoup d'être passé par le club pour la glace et le ciel, et bon festival, profitez-en. Allez, Bonaldi, on va se retrouver dans un instant pour parler de Rosetta. Ça aussi, c'est une sacrée aventure du ciel. Et puis, on parlera de Science et Vie TV, puisque vous êtes l'une des figures de proue de cette nouvelle chaîne. When the night has come and the land is dark and the moon is the only light we'll see, no, I won't be afraid. Oh, I won't be afraid. Just as long as you stand by me. So darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand by me. Stand by me. If the sky that we look upon should tumble and fall, or the mountain should crumble to the sea, I won't cry, I won't cry. No, I won't shed a tear. Just as long as you stand by me. And darling, darling, stand by me. Oh, stand by me. Oh, stand now. Stand by me. Stand by me. Billy King avec Stand By Me sur France Inter.
La tête au carré. Le club sur France Inter.
Voilà, mon camarade Jérôme Bonaldi est toujours en studio. On va parler donc du Mac de la Science et puis de Science et Vie TV, donc qui a démarré il y a 2 mois maintenant. Mais il y a aussi une belle aventure. Vous l'avez vécu, j'imagine, Jérôme, le 12 novembre.
Oui.
Avec l'arrivée de Rosetta, enfin de Philae sur la comète.
On en a parlé. Qu'est-ce que c'est beau.
C'était magnifique. Ça, c'est vrai que ça nous a donné la chair de poule quand même. Hein.
Ah oui, et puis 10 ans de voyage, 510 millions de kilomètres parcourus, ce petit truc minuscule. C'est génial, génial.
Et on a la chance d'avoir Philippe Godon par téléphone. Vous êtes le chef de projet de la mission Rosetta. C'est même pas par téléphone, c'est par duplex des studios de France Bleu à Toulouse. Bah, dites donc, on a les moyens quand même. C'est vous qui avez orchestré l'atterrissage de Philae, justement, Philippe Godon. Depuis Toulouse, comment ça s'est passé? Racontez-nous.
Ah, c'était un grand moment aussi, mais quand on travaille sur le sujet, on est en plein dedans, on regarde les paramètres techniques et on prend moins de recul par rapport à l'événement. Mais bon, il y avait le stress, hein. Le stress était là.
Ah bah ça, on imagine.
Surtout que ça n'a pas été, enfin, pendant toute la première partie de la descente et jusqu'au point de l'atterrissage du touchdown, comme on dit, tout s'était passé nominalement. Et puis après, là, on voit que certains paramètres ne sont pas corrects, les images sont floues. Et qu'est-ce qui se passe? On voit le Philae tourner sur lui-même encore.
Ouais.
Et donc, on se dit, il est en train de rebondir. Où est-ce qu'il rebondit?
Ah oui.
Alors, on a eu de la chance dans cette aventure, c'est que on est toujours resté en communication entre Rosetta et Philae, donc entre Philae et la Terre. Et on a pu suivre l'arrivée des données jusqu'au point où il a finalement atterri, à 1,4 km de l'endroit prévu.
C'est ça, il y a eu quelques rebonds qui ont dû vous donner des sueurs froides quand même. Hein.
Voilà, exactement. Alors, on a de la chance, c'est qu'à l'intérieur de Philae, il y avait ce qu'on appelle une roue à inertie qui a maintenu Philae, son axe vertical constant. Et c'est ce qui nous a permis à la fois de maintenir la communication et d'avoir un atterrissage final pas trop mal, quoi.
Alors samedi 30 mai, Arte va diffuser à 20h50 l'aventure Rosetta aux origines de la vie. C'est un documentaire donc sur cette mission spatiale totalement inédite. Et le réalisateur Jean-Christophe Ribaud a pu suivre toutes les étapes décisives de cette mission. Il a rencontré les grands scientifiques justement qui ont participé à ce projet, dont vous, Philippe Godon, extrait de ce doc.
Le 20 janvier 2014, lorsqu'Andrea Accomazzo se rend à l'Agence spatiale européenne, il ne sait pas encore que la sonde Rosetta, qu'il pilote depuis 10 ans, entrera dans l'histoire. Dans 6 mois, Rosetta atteindra son objectif, la comète 67P. Elle couronnera des siècles de recherches scientifiques qui questionnent la place de l'homme dans l'univers. Comment la vie est-elle apparue? A-t-elle pu émerger ailleurs que sur Terre? Des questions qui ont inspiré l'une des missions les plus ambitieuses de l'exploration spatiale.
Et imaginez dès 1993, hein, quand même. C'est beaucoup de patience aussi, Philippe Godon, hein, quand on travaille dans le spatial comme vous et qu'il faut faire parcourir plus de 6 milliards de kilomètres à une sonde.
Oui, exactement. Faut dire que moi-même, je n'ai commencé à travailler qu'en 2001 sur le projet et qu'il avait été décidé en 1995. Donc, c'est vraiment le projet à 20 ans le plus long réalisé par l'Agence spatiale européenne.
Ouais.
Et un des plus longs avec ceux de la NASA.
Et donc maintenant, vous faites face au silence assourdissant de Philae. C'est ça qui est terrible. C'est qu'il n'y a pas de nouvelles.
Ouais. Elle risque de se réveiller quand?
On peut pas dire, malheureusement. On a beaucoup travaillé depuis le 14 novembre où on a eu les dernières données. On a localisé vraiment une petite zone dans laquelle il se trouve. On pense savoir aussi dans quelle position il est, ce qu'on appelle latitude, comment il est posé sur les rochers. Mais par contre, ce qu'on n'a pas, c'est le relief vraiment immédiat autour. Est-ce qu'on est à l'entrée pratiquement d'une grotte, dans un trou, etc. Et ça, on ne sait pas le dire. Et c'est ce qui nous empêche de savoir exactement quand Philae va pouvoir se réveiller.
Sauf que là, on est dans une période intéressante finalement. À partir du mois de mai, vous dites que c'est maintenant que tout pourrait arriver, hein.
Jusqu'au mois d'août, on va de toute façon être confiant. Après, malheureusement, la comète repartant loin dans l'espace, ça sera beaucoup moins favorable. Donc là, on est confiant, en effet.
Et la mission s'achève quand? En décembre, c'est ça, Philippe Godon?
Alors, pour Rosetta, actuellement, elle est prévue en décembre 2015, mais on pense qu'il y a suffisamment de carburant à bord de Rosetta pour la continuer. Mmh. Et on prévoit jusqu'en septembre 2016, dans un deuxième temps.
Alors là, à Toulouse, donc, on travaille encore sur le réveil possible de Philae, quand même, hein.
Ah, tout à fait. On reste dans cette optique-là. Alors, on atterrit sur l'hémisphère, enfin, on a touché le sol sur Agilca, sur une zone qui était dans l'hémisphère d'été. Mmh. Et au bout de 1,4 km, on est arrivé de l'autre côté d'un cratère dans une zone qui était sur l'hémisphère d'hiver, qu'on a appelé Abydos depuis. Ouais. Et donc, on sait que les choses s'améliorent du point de vue de la saison. Et donc de la durée du jour qui augmente et de la proximité au soleil puisque la comète se dirige vers le soleil. Mmh. Et donc toutes les conditions s'améliorent. Et nous, notre travail à Toulouse, au Centre National d'Études Spatiales, c'est de préparer dès le réveil les opérations scientifiques, les premières opérations, les premières activités des instruments à faire. Donc les premières seront celles qui consomment, enfin les instruments qui consomment le moins à bord de Philae.
Jérôme Bonaldi.
Petite page de pub pour une quinzaine de lycées de France, de Créteil, de Limoges, qui ont fabriqué la réplique à l'échelle 1 de Philae et qu'on voit jusqu'à
sur
fin
du
mois. En bas des Champs-Élysées.
Jusqu'à ce week-end. Hein.
Oui, jusqu'à ce week-end. Faut se dépêcher. Mais c'est un joli travail de tous les lycéens et d'une quinzaine de lycées en France. Ouais. Je trouve ça plutôt joli et sympa qu'on s'intéresse à ça. Voilà. Je rappelle qu'elle ne pèse que quelques grammes sur Tchouriou.
Et ça a fait rêver tout le monde, effectivement, oui. Philippe Goudon, avec évidemment toutes les publications scientifiques là qui vont arriver aussi, hein, autour de.
Tout à fait.
De la comète.
On a encore peu de résultats annoncés en tout cas, mmh. et on espère ceux de Philae pour la fin du mois de juin, voilà. dans Science.
Et ce qu'on sait, c'est qu'il n'y a pas de magnétisme, par exemple, sur la comète.
Oui. Exactement. Alors, ça remet en cause un tout petit peu l'idée qu'on se faisait de la naissance d'une comète à partir des grains de poussière et, ouais. et du gaz qui entourait le Soleil, le proto-Soleil, ouais. tout à fait au départ.
Juste un truc que racontaient les lycéens rapidement, c'est, imaginez, vous avez une pomme, et bien vous allez recevoir une petite poussière qui a été envoyée de New York. À New York, les mecs, ils ont envoyé un grain de poussière pour aboutir sur une pomme ici à Paris. C'est le trajet qu'a fait Rosetta.
Voilà, et c'est l'art du vulgarisateur que de nous donner des images simples et claires comme ça en tête. Merci Philippe Goudon pour ces explications.
Une dernière chose. Philea, dont vous avez parlé, la maquette, après les Champs-Élysées, va se retrouver au Salon du Bourget au Musée de l'Air et de l'Espace. Ouais. Donc,
très bien.
Pour ceux qui voudraient le voir,
on en prend bonne note. Merci à vous, en tout cas, on croise les doigts pour Philae, hein, pour son réveil prochain, on espère qu'on aura l'occasion d'en reparler. Merci beaucoup. Allez, Jérôme Bonaldi, c'est à vous dans un instant. Les dernières minutes de ce club des têtes au carré après Charlie Winston et Truth sur France Inter. You took a step into my world, leaving all of yours behind. Unknown. Took your time to understand all the ways I wear my love. With a shield in your hand, there were sticks and stones, but no one broke their bones. The bond is bigger with each day we live. I believe in truth. A long time to get there, but we made it. I made it with you. I believe in truth. Took a long time to get there, but we made it. I made it with you. Well, we had some ups and downs. I believe in truth. Took a long time to get there. Truth, dernier extrait du nouvel album de Charlie Winston sur France Inter.
Le club carré sur France Inter.
Jérôme Bonaldi, bah, qui retrouve France Inter quand même.
Oui, hein. J'ai commencé là.
C'est là que vous avez commencé.
Il y a très longtemps. C'est bien la radio.
74, c'est ça. Oui, oui. Vous étiez journaliste.
Au siècle dernier, ouais. Je faisais le petit matin avec Gérard Courchel.
Oui, c'est vrai.
C'était bien, Gérard Cyr.
Voilà.
L'assassin revient toujours sur les lieux de son crime.
Absolument. Et pendant qu'on se parle, c'est amusant parce qu'il faut dire aux auditeurs que dans ce studio, il y a des écrans de télé qui sont allumés. Voilà. C'est bizarre, mais c'est comme ça.
Et qui sait.
Et
que
pendant qu'on se parle, il y a Philippe Gildas qui est en train de répondre à une interview. Donc voilà, oui. C'est un petit signe pour vous.
On est partout.
La science à la télévision, c'est Science et Vie TV qui a démarré il y a deux mois. Alors, on connaît le magazine, papier, oui. Évidemment. Et donc là, c'est quoi? C'est une déclinaison image?
C'est un mariage d'amour. Un mariage de raison, un mariage formidable, enfin plein de petits bébés. La télévision d'un côté, qui n'est pas spécialement faite pour faire de la science. C'est un peu compliqué à la téloge de faire de la science.
Pourquoi?
Oh, c'est parce qu'on s'adresse à tout public, donc à des gens qui sont spécialistes et donc ils ne le sont pas. Donc on est obligé d'être un peu réducteur. En tout cas, on est très 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 grand public. Des mots de plus 12 lettres, c'est un peu compliqué parce qu'on est segmentant, comme disent les gens de marketing. Et puis on n'a pas beaucoup de place quand on fait 25 émissions de télé, mais même vous en radio, hein, ça fait 4 pages dans le journal, dans papier journal. Mmh. Et pourquoi est-ce qu'on n'est pas doué pour la téloge?
Non, pourquoi il y a si peu de chance?
Parce qu'il n'y a pas d'argent. D'abord, il n'y a pas de volonté politique délibérée de la part d'eux. On dit il faut d'industrie, il faut des ingénieurs, il faut des scientifiques. Oui, mais d'accord, mais pour susciter des vocations, là, ils ne savent pas. Et parce que je pense que beaucoup de décideurs dans les instances de la radio et de la télévision ont une culture essentiellement littéraire. Autant, tu sais, dans certains milieux, quoi, tu n'as pas lu le dernier bouquin de Trucmuche ou Houellebecq, tu n'as pas vu le dernier film, c'est un scandale. Tandis que les mêmes se vantent de ne pas avoir la bosse des maths. Les mêmes se vantent de ne pas comprendre les sciences. Mmh. Et en fait, ils augurent l'ignorance du public à leur propre ignorance. Ils ont peur de ne pas comprendre, donc ils ont peur que les gens ne comprennent pas. Et donc, je ne sais pas comment marche un frigo, on parle pas de science, de technologie, hein, même de simple technique. Et donc, ils pensent qu'ils ont peur de... Je ne vais jamais comprendre, donc ils ont peur de faire une émission où les gens ne comprendraient pas.
Voilà,
c'est très simple. Il y a, quand on dit culture, ils pensent littérature, le cinéma, la poésie, la danse, mais, et la culture scientifique. Ah oui, c'est vrai, la culture scientifique. Pour eux, c'est pas une culture.
Viron nous dit trop peu d'émissions scientifiques à la télé. Est-ce que cette chaîne Science et Vie TV va combler cette absence sur nos écrans? Comment non. Ça fonctionne? C'est du matin au soir, la nuit, tout le temps?
Oui, avec beaucoup de rediff, hein, comme d'habitude sur ces petites chaînes du câble. Hein. Mm-hmm. On dépasse pas le million de téléspectateurs, mais au moins ceux qui nous regardent, ils sont contents, je pense. On va combler? Non. Non, c'est sûr. Mais elle est nécessaire, mais elle n'est pas suffisante.
Oui.
C'est
donc
une CNS.
C'est-à-dire?
C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante.
Ah ben merci.
Vous n'avez pas fait de maths, vous, quand vous étiez petit?
Non, pas du tout. Mais non. Mais vous, par contre, oui.
Oh, il y a très, 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 très longtemps.
Mais quand même,
j'ai tout oublié.
Vous êtes un vrai matheux, vous avez fait
non.
Jussieu?
Ouais, je fais maths physique, mais j'ai...
Ben quand même, c'est pas si pire.
Ouais, mais c'est pas nécessaire. Il n'est pas nécessaire d'avoir fait des sciences pour les aimer, pour les comprendre.
Oui.
Je pense que ça peut être très très grand public.
Le Mac de la science, donc, c'est le samedi à 18h, donc c'est toutes les semaines, oui. Émission hebdomadaire, une spéciale par mois aussi,
Jérôme
Bonaldi. Une
spéciale mensuelle, oui, ouais. Avec des invités suivis par un documentaire exclusif.
Mm-hmm.
La semaine prochaine, je crois qu'on fait un truc sur l'homme connecté.
C'est voilà. Sûr.
Oui, oui, non, mais on est toujours un peu enregistré à l'avance. Hein, c'est le problème de la télévision. Non, c'est l'homme connecté. Vous êtes fliqué, Big Brother is watching you, et on sait qui vous êtes, qu'est-ce que vous faites, quand, où.
Donc, cette émission en plateau, ce sont des invités, des interviews, des objets aussi?
Peu, relativement peu.
Est-ce que c'est le Bonaldi qu'on a vu à nulle part ailleurs manipule?
C'est un petit peu ça. En gros, je vous raconte comment commence l'émission. D'abord, elle se tourne dans mon bureau. Et d'idée, c'est bonjour, bienvenue dans le Mac de la Science, bienvenue chez moi en fait, dans mon bureau. Parce que vous allez voir qu'il n'y a pas besoin d'avoir un laboratoire comme décor, pas besoin de porter une blouse blanche.
C'est un cabinet de curiosité, votre bureau quand même.
Oui, c'est ça.
C'est un beau décor.
Oui, d'accord. Mais il y a encore des gens qui pensent que quand on fait une émission science, il faut un labo.
Oui.
C'est idiot, il y a 640 sciences différentes, il y en a deux qui utilisent un labo. Mm-hmm. Tu sais, on met du carboglace avec
la paillasse,
avec de la fumée. C'est débile, c'est stupide, c'est une image vieillotte de la science, avec la blouse blanche, ou bien avec des images de synthèse.
Parlez pas de la barbe parce que vous l'avez, la barbe.
Mais on peut être drôle, rigolo, on peut prendre les choses à cœur, mais pas au sérieux.
Donc ce sera toutes les semaines, et c'est déjà toutes les semaines à partir de 18h.
Mais l'apport des journalistes de Science et Vie, le journal, elle est formidable. On a enfin des vrais morceaux de science dedans. Et parce qu'eux amènent une expertise, c'est quand même eux des spécialistes. La fille qui s'occupe des grands singes, elle connaît les grands singes par cœur. Et avec un tout petit peu, mais 5 minutes de training, elle nous raconte des histoires. C'est génial, c'est vachement bien. Je suis très très fier de travailler avec les journalistes de Science et Vie, le journal. Je vous signale que c'est quand même le plus grand journal scientifique, non pas de France, mais d'Europe en tirage. Mmh. Et ça marche depuis un siècle. C'est-à-dire que la science intéresse les gens. Zut alors.
Mais justement, comment vous expliquez cette frilosité, mais vraiment typiquement française, parce qu'on voit les anglo-saxons à la télévision qui ont beaucoup plus d'audace pour mettre des programmes de science assez costauds, d'ailleurs, à des heures de grande écoute, chose qu'on ne fait jamais, nous, ici en France.
J'ai longtemps pensé que c'était désespérant. Quand je suis désespéré, je me dis que c'est désespéré, tu vois, c'est vraiment, je manque de morale. Je crois que c'est vraiment une question de volonté politique. On en a fait des projets. J'ai même été au Sénat devant le CSA présenter des projets, des missions scientifiques. Comme il n'y a pas beaucoup d'argent, on peut se le faire faire par, on peut se faire payer, sponsorer par des gens qui font de la science. Dans le genre ENGIE, enfin GDF Suez, le CNRS, Total, il faut mélanger tout ça. L'INRIA, ils ont des choses formidables. En plus, ils ont le devoir, comme le CNRS, un, de chercher et deux, de raconter ce qu'ils font. Mmh. Donc ils ont obligatoirement un budget de com. Et nous, on pourrait le faire grand public. Ah non, on est frileux, il ne faut pas marquer la, faut pas qu'il y ait la marque dessus. Oui, mais si je fais un robot, moi, je cite Fanuc ou Arnaud Semua. Enfin, vous voyez, c'est, on va pas cacher le robot avec le nom du robot. Non, c'est une technologie. C'est, si je mets une cellule photovoltaïque, elle est prêtée par quelqu'un. Pourquoi cacher la marque? Enfin, c'est toutes ces frilosités-là qui nous empêchent d'avancer.
Vous faisiez de la science à Canal+, ou pas, à l'époque du Nu par ailleurs, Jérôme Bonaldi, ou pas? C'était surtout de la technologie et des objets.
Éternel débat. Moi, j'aime pas la science. La science, ça m'ennuie. On dirait même que ça m'emmerde. C'est chiant. C'est compliqué, il faut suivre, tu sais, A, B, C, des fautes. En revanche, les applications concrètes de la science, c'est-à-dire la technologie, c'est-à-dire les objets du quotidien, eux m'intéressent. Et donc, je préfère commencer par, tiens, voilà un allume-cigare. Regardez, j'appuie dessus, ça fait poète-poète. Mm-hmm. Ben, vous savez comment ça marche? Eh ben, regardez, je le démonte, et vous savez, ça, c'est une loi fondamentale de la physique. Je débarre de l'objet, d'un truc que vous connaissez déjà, mais vous savez comment est-ce qu'il fait que pour eux, voilà. Et je trouve que c'est amusant de commencer par l'application, parce qu'elle t'intéresse. Toi, cher téléspectateur. Et hop, je te montre en disant, t'as vu le brain qu'il y a derrière? Et ça, c'est une application de Albert Frère.
Et à l'époque, il y avait le fameux syndrome Bonaldi. Toute démonstration d'un produit quelconque qui fonctionnait parfaitement aux répétitions échouera lamentablement lors de la démonstration publique. C'est ce qui vous arrivait régulièrement à la télé.
Mais tous les scientifiques qui nous regardent connaissent ça. C'est l'effet labo, c'est l'effet visiteur.
Oui. Mais vous avez le nom d'un syndrome, donc c'est quand même très chic.
Avec Murphy, oui.
Jérôme Bonaldi, voilà, c'est ça. Allez, le mag de la science, donc c'est sur Science et Vie TV. Il faut découvrir cette nouvelle chaîne. Donc c'est sur le câble, c'est donc payant.
Eh oui.
Hein, il faut participer un petit peu.
Et ça se mérite.
Voilà. Et donc, tous les liens sont évidemment sur La Tête au Carré. Et vous, on vous retrouve demain donc à 18h. Merci beaucoup, Jérôme Bonaldi. J'étais ravi de vous avoir au micro du Club de La Tête au Carré cet après-midi. Bon week-end à vous. Merci.
Bon week-end à vous.